Ce podcast est dédié aux sciences de la complexité, c'est-à-dire à l'ensemble des techniques, des modèles et des outils nécessaires pour appréhender la complexité de l'univers dans toutes ses dimensions et à toutes ses échelles, c'est-à-dire de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Eh bien, ce projet, qui est un projet extrêmement ambitieux, est peut-être celui qui est derrière toutes les approches scientifiques, mais la science de la complexité va prendre une tonalité tout à fait particulière à partir des années 50, 1950, après la Seconde Guerre mondiale. Cela va s'appuyer sur les résultats de la démarche scientifique qui a été mise en place au début du XVIIe siècle, à l'époque des grands fondateurs que sont Galilée, Newton et d'autres. Une démarche scientifique qui s'est avérée extraordinairement puissante en se basant sur trois grands pieds. Premier pied, l'instrumentation, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter d'observer la nature telle qu'elle est, il faut des instruments qui permettent d'amplifier la vue pour aller soit vers l'infiniment grand. Galilée a utilisé en particulier les lunettes astronomiques qui venaient d'être inventées pour observer le mouvement des lunes de Jupiter. Et un petit peu plus tard, on allait développer les microscopes qui permettaient d'avoir accès et de percevoir les animalcules et les éléments plus petits qui constituent notre univers quotidien. Mais surtout, et surtout aussi grâce à Newton, le troisième pied, c'est ce qu'on appelle l'abstraction et l'abstraction mathématique. C'est-à-dire, comme disait Galilée, le livre de l'univers, il est écrit en alphabet mathématique. Et donc, la démarche scientifique est inséparable de la mathématisation, de l'élaboration de modèles mathématiques qui se constituent généralement sous forme d'équations et la résolution de ces équations permettant de retrouver, ou pas, suivant la qualité du modèle, retrouver les observations naturelles. Donc, instrumentation, expérimentation, mathématisation allaient devenir les trois pieds de la recherche scientifique pendant trois siècles et encore peut-être de nos jours. C'est une démarche qu'on appelle peut-être réductionniste, comme aurait dit Descartes, c'est-à-dire qu'on cherche plutôt, partant des grands problèmes, de les décomposer en petits éléments plus simples à appréhender et à résoudre. Et en fait, c'est une démarche qu'on peut qualifier de quête de l'unité, c'est-à-dire d'essayer de trouver dans toute la diversité des observations et des phénomènes à toutes les échelles de notre univers, trouver quelles sont les grandes lois, les grands principes qui gouvernent, qui seraient communs à l'ensemble de l'univers et qui permettent de déterminer son évolution. Donc la notion de loi universelle est apparue avec Newton, et d'autres allaient bientôt suivre, comme l'électromagnétisme avec Maxwell au 19e siècle, et les équations de la mécanique quantique allaient ouvrir la voie à l'étude des particules élémentaires, c'est-à-dire les particules dont on pense actuellement que sont les briques essentielles de base pour construire notre univers. Donc, à la fin du 19e, il y a eu une espèce de période un peu, j'allais dire, morose, où on pensait que les grands problèmes de la physique étaient résolus ou étaient en voie d'être résolus. Et puis on s'est rappelé, on s'est appuyé là-dessus sur le fameux rêve de Laplace, c'est-à-dire le grand mathématicien et astronome français qui a émis en 1814 son hypothèse de démon, du démon de Laplace. C'est-à-dire, si, vu la puissance des outils dont nous disposons, si on était capable à un moment donné de déterminer la position de l'ensemble des constituants de l'univers et des forces qui les gouvernent, eh bien, on serait a priori, théoriquement, capable de prévoir le comportement de l'univers dans toutes ses dimensions et à toutes ses échelles, et aussi peut-être de remonter dans le passé. Donc le rêve de Laplace, c'est le rêve d'une science toute puissante qui, basée sur l'instrumentation, l'expérimentation et la mathématisation, est capable de modéliser et de prévoir le comportement de l'univers dans toutes ses dimensions. On va voir dans la suite que ce rêve n'est vraiment qu'un rêve et qu'on est très loin de pouvoir le réaliser. Parce que ce problème-là, déjà à l'époque de Laplace et plus tard, on s'est posé des questions. Est-ce que ce rêve, il n'est pas possible pour des questions pratiques? évidemment connaître la position de toutes les particules de l'univers, mais surtout être capable de résoudre toutes les questions, les équations qui les gouvernent. À l'époque de Laplace, c'était techniquement impossible. Donc, pour certains, le rêve de Laplace était impossible pour des raisons techniques. Et plus tard, ils ont pu penser que l'ordinateur arrivant, on allait pouvoir dépasser ces limites-là et que l'ordinateur allait permettre de résoudre ces questions-là. D'autres commençaient à pressentir, on verra le cas de Poincaré, le mathématicien début du XXe siècle, qui a des causes beaucoup plus profondes qui rendent ce rêve impossible. Et en effet, pour aller vers cette solution, pour essayer de trouver la solution au rêve de Laplace, à partir du milieu du XXe siècle, on va voir apparaître ce qu'on appelle le rôle des automates, des programmes de calcul qui sont finalement que des automates très sophistiqués. Et certains ont pu penser que si les automates devenaient de plus en plus puissants, on allait pouvoir régler les problèmes techniques du rêve de Laplace. Donc, il y a eu trois étapes dans les sciences. Une étape de calcul avec les nombres jusqu'avant 1700. Puis, à partir de 1700, depuis Newton et d'autres, on a commencé à écrire des équations mathématiques qu'on pouvait étudier de manière formelle et analytiquement. Et puis, Poincaré, le grand mathématicien, a démontré que ces solutions sur le papier de ces équations-là n'étaient qu'un cas très particulier et qu'il fallait d'autres outils pour les résoudre. Ce sera à partir des années 50 l'utilisation de l'ordinateur. Alors, l'ordinateur, ce n'est qu'un cas particulier de ce qu'on appelle un automate, que j'appellerais un automate. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un automate? Un automate, c'est une boîte noire qui sert à traiter des données. Vous avez à l'entrée, vous envoyez des données d'entrée dans l'automate. Cet automate fait un certain nombre de calculs, restitue en sortie des données de sortie. Et la plupart d'évolutions du système suppose qu'on fasse une évolution par pas de temps, on fait une étape à petits pas. Et bien, dans ce cas-là, la première itération va donner par exemple la trajectoire de la fusée. Au bout du 1/10 de seconde, on réinjecte ces données de sortie dans la voie d'entrée, et puis on recommence le calcul en espérant que cela va donner la position de la fusée aux 2/10 de seconde, et ainsi de suite. Donc, les automates sont des boîtes noires de traitement de données dans lesquelles les données de sortie sont réinjectées en entrée pour faire évoluer l'automate vers des solutions qu'on estime intéressantes pour nos problèmes. Gardons en esprit ces automates qui se réalisent souvent par des programmes d'ordinateurs, mais on peut imaginer d'autres automates qui ne seraient pas des ordinateurs. Alors, on aurait pu, ceux qui avaient anticipé ou ceux qui avaient une don de voyance au début du XXe siècle pouvaient dire, mais il y a une voie royale pour la physique et pour les sciences en général. On prend des modèles mathématiques adaptés au contexte, on les transforme en automate de calcul que l'on met sur ordinateur et avec ça, on va pouvoir tout modéliser, tout calculer. Et c'est vrai qu'actuellement, qu'on voit par ordinateur, quand on est capable de poser à des milliards de kilomètres un satellite sur une petite astéroïde, on comprend que ce schéma-là est un schéma qui se dessine et qui est extrêmement puissant. C'est ce qu'on appelle la démarche réductionniste, la démarche vers l'unité. Mais est-ce que tout va pouvoir se résoudre selon ce schéma-là? Dès le début du 19, du XXe siècle, Raymond Poincaré, pas Raymond, Poincaré, Henri Poincaré, le grand mathématicien, va émettre des doutes sur ce beau schéma, sur cette voie royale, et donc mettre un peu d'ombre sous les règles de Laplace. Qu'est-ce qui s'est passé avec Poincaré? Eh bien, Poincaré, il s'est intéressé aux solutions des équations des physiciens, que les physiciens manipulaient dans tous leurs modèles. Et il a fait des études extrêmement puissantes, généralistes, topologiques, etc. Et il s'est aperçu d'une chose, c'est qu'effectivement, ces équations-là, souvent, avaient un caractère, ce qu'on appelle déterministe, c'est-à-dire que si on met des données d'entrée bien calculé, ça prévoit de manière correcte ce qui va se passer à la sortie, autrement dit, un petit peu d'incertitude sur les données d'entrée ne donnera pas de grandes incertitudes sur la donnée de sortie. Et puis, il a anticipé, sans pouvoir vraiment le calculer, que, il y avait des équations, des systèmes dans la nature, tels que ce beau rêve-là ne marchait pas, c'est-à-dire que des petites fluctuations dans les données d'entrée se traduisaient par des fluctuations énormes en sortie, qui rendaient illusoire toute prédiction, puisque on est incapable dans beaucoup de domaines de prévoir jusqu'à la 20e décimale ou la centième décimale les données d'entrée. Donc, il y aura peut-être des domaines d'équations pour lesquels le rêve de Laplace ne s'appliquera pas. Et puis, parmi les nuages qui s'accumulaient contre le rêve de Laplace, il y avait aussi ce qui se passait du côté des mathématiciens. Les mathématiciens et les physiciens ont souvent marché main dans la main, souvent c'était quelquefois les mêmes. Newton, par exemple, créant les mathématiques nécessaires pour sa physique, quelquefois c'est l'inverse, des physiciens utilisant des objets mathématiques créés par les mathématiciens. Donc, la physique repose beaucoup sur la puissance et la capacité des mathématiques. Et finalement, le rêve de Laplace se traduit en mathématiques par ce qu'on appelle le rêve de Hilbert, au début du XXe siècle, dans les années 1900, qui disait on connaît maintenant les grands. On essaie de déterminer les grands principes de base de logique qui sont à la base de tout raisonnement mathématique. Et à partant de ces principes de base, est-on capable de reconstituer la complexité de toutes les mathématiques dont désormais on connaît les propriétés, les équations, des groupes, tous les objets mathématiques très sophistiqués que nous connaissons désormais. Donc une démarche un petit peu parallèle à ce que pourrait être la physique, c'est-à-dire connaissant les constituants de base de l'univers, est-ce que je peux reconstituer la complexité de l'univers? Connaissant les constituants de base des mathématiques, est-ce que je peux reconstituer l'ensemble des propriétés des objets mathématiques? Et patatras, ce rêve de Hilbert a été détruit en 1930 dans les années 30 par l'autre mathématicien Gödel, qui a démontré que quand on part d'un ensemble de postulats de départ, eh bien, on aboutira toujours à des zones d'ombre, à des zones non démontrables, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à établir les mathématiques sur des bases, à partir des principes de base, de manière complète et sûre. Donc le château de cartes des mathématiques est très branlant. Et donc Poincaré, comme je le rappelle, avait aussi montré les problèmes de système qu'on appellera plus tard chaotique. Et puis enfin, dernier nuage, et pas le plus petit, la mécanique quantique. Dans les années 1920 a été élaborée la mécanique quantique de l'infiniment petit, qui a intrinsèquement un aspect aléatoire, un aspect bruité, un aspect indéterminé. Donc on le voit bien que l'ensemble de ces nuages-là rendent tout à fait illusoire le rêve de Laplace. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut rien calculer, qu'on ne peut rien prédire? Eh bien, on nous espérons que non. Et c'est vraiment un peu l'objet des sciences de la complexité, c'est d'essayer de trouver des outils adaptés à ces contextes-là pour pouvoir quand même pouvoir analyser des systèmes. Alors, le mot complexité existait déjà, peut-être, mais n'était pas très précis. Il a pris un contexte tout à fait particulier dans un rapport qui a été écrit par M. Weaver à la demande du gouvernement américain. Le gouvernement américain, après la Seconde Guerre mondiale, devant le succès du projet Manhattan qui avait abouti à la construction de la bombe A, avec le succès que l'on connaît, s'est posé la question, mais est-ce que finalement une page de la science va peut-être pas se tourner à partir de cette évolution, de cette révolution qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale? Il a demandé à M. Weaver de préparer un espèce de rapport prospectif en disant vers quoi va s'orienter la science. Et ce rapport s'intitule Science et complexité. En fait, Weaver a analysé le contexte et finalement, il s'appuie sur certains éléments nouveaux. Bien sûr, sur les éléments mis en avant par Poincaré, sur le fait qu'il y a toute une partie des équations mathématiques qui, par nature, donneront des résultats qui sont imprédictibles. Il s'appuie aussi sur le fait que, dès les années 42, pour les besoins des calculs de la bombe A, on a commencé à faire des calculateurs qui sont des automates numériques, pour faire des calculs et qu'il anticipait que la puissance de ces ordinateurs allait se développer de manière extrêmement, peut-être exponentielle, et allait donc changer complètement la façon d'appréhender la science. Autre chose aussi qu'il a pris en compte, c'est le fait que le projet Manhattan lui-même, le projet de construction de la bombe A, on n'imagine pas la somme d'intelligence, la coopération qui ont été montées entre des scientifiques de différents domaines, des biologistes, des métallurgistes, des mathématiciens, des physiciens, etc. Et que, ils se sont attaqués à un problème d'une complexité inouïe et a été résolu par la conjonction de différents domaines scientifiques. Là aussi, on pouvait anticiper qu'à l'avenir, il y aurait énormément de développement dans les, non pas par les scientifiques, chacun dans leur couloir, mais par des collaborations interdisciplinaires. Et enfin, et là-dessus, Weaver insistait beaucoup, que jusqu'à 1940-50, la discipline reine était la science, la physique, ou la science chimique aussi, par sa capacité à être modélisée mathématiquement, et donc avoir un pouvoir d'explication extrêmement puissant. La biologie restait un petit peu en retrait dans la mesure où elle était plutôt une science d'observation, mais progressivement, on verra plus tard avec la découverte de l'ADN, avec toutes les approches quantitatives des systèmes biologiques, eh bien, l'étude scientifique des systèmes biologiques et des équations qui les sous-tendent allait rentrer dans le domaine de la science aussi. Sachant que, par nature, le vivant est beaucoup plus fluctuant, beaucoup moins, j'allais dire, cernable, beaucoup moins déterministe que la physique des objets inanimés. Donc, Weaver, en gros, disait, jusque dans les années 1950, finalement, on s'est occupé de problèmes simples, qu'on pouvait calculer, parce qu'on n'avait pas d'outils pour ça, on n'avait que des outils abstraits. Donc on avait des problèmes simples, des deux ou trois planètes qui interagissaient, etc. Mais désormais, on va avoir affaire à des problèmes beaucoup plus multidisciplinaires, dans des contextes plus confus, et qui sont des problèmes complexes. Donc l'avenir de la science physique, c'est la science dans la complexité. Alors le mot complexité allait faire florès et allait être développé, et allait être... j'allais dire, aller se répartir dans tous les champs disciplinaires, puisque la plupart des disciplines, que ce soit chimie, physique, biologie, économie, je pense aussi, et tout, allaient s'approprier ces concepts-là, quelquefois de manière un peu indue, hein, puisque on les a peut-être importés sans trop les comprendre. Mais des mots comme émergence, comme hasard, comme chaos, comme système autoréférentiel, comme système récursif, comme système auto-organisé, allaient devenir des adjectifs et des concepts utilisés dans tous les domaines de la science. Et on peut dire que, dans ce sens-là, qu'il n'y a pas d'une science de la complexité, on n'a pas pu élaborer une science qui serait valable pour tous les systèmes complexes, mais simplement, on a pu faire des grandes catégories de systèmes pour lesquels on pouvait développer des méthodes communes. Mais il n'y a aucun méta-modèle pour les systèmes complexes. La seule chose qui relie toutes ces sciences du complexe, eh bien, c'est le fait qu'elles sont basées sur l'ordinateur, sur la puissance de l'ordinateur, et avec donc sont basées sur l'utilisation d'automates de calcul qu'on appelle des automates discrets, parce que ce sont des automates qui évoluent par pas de temps discret et qui traitent de nombres. Et puis aussi, ces méthodes-là vont s'inspirer beaucoup du hasard qui apparaît dans la nature. Et le mot-clé qui allait envahir aussi les sciences de la complexité, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme, en disant, essayons d'observer dans la nature les systèmes, parce que les systèmes vivants savent aussi résoudre des problèmes très compliqués, très multidisciplinaires. Un essaim d'abeilles, s'il est composé d'abeilles qui sont toutes relativement isolées, bêtes, j'allais dire. Mais un essaim d'abeilles a une capacité de résilience et d'adaptation assez remarquable, et les modèles biomimétiques allaient inspirer la plupart des développements dans des sciences de la complexité. Le mot complexité allait envahir aussi d'autres champs, y compris le champ des sciences humaines, et Edgar Morin s'en est fait là, le chantre avec tous ses ouvrages, notamment ses trois tomes de la méthode. Donc, le concept de complexité allait à la fois envahir tous les champs disciplinaires et quelquefois en perdant un peu de sa spécificité. Si j'en reste au niveau des sciences exactes, j'allais dire, Comment caractériser la complexité? D'abord, est-ce que la complexité se mesure? On ne peut pas faire de science sans mesure. Eh bien, il n'y a pas de mesure absolue de la complexité d'un système. Mais en fait, on peut faire des mesures relatives. On peut comparer la complexité de différents systèmes de même nature. Et en fait, la complexité d'un système se mesure à la quantité de ressources qui sont nécessaires, soit pour le décrire, ou soit pour prédire le comportement du système. En gros, si je parle du comportement, eh bien, c'est lié au nombre de lignes du programme qui va décrire le comportement du système et le temps de calcul nécessaire pour aboutir à un résultat. Donc, les mathématiciens ont ainsi pu cataloguer tout un ensemble de catégories d'algorithmes suivant que leur complexité dépend en linéairement ou au carré ou de manière exponentielle en fonction de leur nombre de composants. Donc la complexité, même s'il n'y a pas de mesure absolue, il y a beaucoup d'outils spécifiques de chaque domaine qui permettent de préciser ce qui est complexe et ce qui est les moins. Par exemple, si je prends une image que je vous décris, que vous ne voyez pas, si je vous dis que c'est une image constituée de petits carrés de 1 cm de côté qui constituent un quadrillage sur une feuille A27, A4, voilà, c'est une description qui prend relativement peu de mots parce que l'image est simple. Si maintenant j'essaie de vous décrire mon cerisier qui est dans mon jardin, et pas n'importe quel cerisier, mon cerisier avec toutes ses caractéristiques individuelles, là, il vous faudra des milliers et des millions et des mégabits d'informations pour décrire le détail de l'image. C'est toute la différence entre une image complexe et une image simple. Et d'ailleurs, les outils de compression utilisés par les ordinateurs sont sensibles à la complexité des images. Une image complexe, on n'arrive pas très beaucoup à la comprimer pour la transmettre dans les réseaux. Donc la complexité, ça se mesure. Alors, il y a plusieurs axes de complexité. Et là-dessus, Weaver a été extrêmement précis sur ça, puisqu'il a essayé de montrer qu'il y avait deux sortes ou trois sortes de complexité, de systèmes complexes. Il y a des systèmes qui sont compliqués. Alors, les systèmes compliqués, j'allais dire, on les met à part, ce sont les systèmes hétérogènes. Quand vous avez un tas d'ordures ou un tas de composants divers ça forme un système compliqué, mais pour arriver à trouver un moyen de le décrire, ben, la seule solution, c'est de prendre des éléments un par un. Donc, les systèmes compliqués resteront compliqués puisqu'on ne peut rien en faire. Dans les systèmes que l'on peut traiter, il y a ce qu'on appelle les systèmes qui ont une complexité désorganisée. La complexité résulte du fait qu'il y a de très nombreux composants qui interagissent par exemple simplement entre eux et pour lesquels on va être capable de sortir des éléments. C'est ce qu'on appelle la physique statistique qui a été élaborée pour les gaz au 19e siècle. Par exemple, un gaz de molécules est composé de milliards de molécules. Donc, décrire un gaz, c'est complexe. En revanche, comme les composants sont toujours identiques, on peut utiliser des outils statistiques. Et c'est comme ça que Boltzmann et Maxwell ont pu montrer qu'on peut retrouver les propriétés des gaz, leur pression, leur volume, leur température, leur énergie, à partir du comportement statistique des molécules qu'ils composent. Donc, il y a la complexité désorganisée. Et Weaver dit, ça, c'était bien étudié. On va continuer, mais c'est la science du 19e ou du début du 20e. Et puis, il va y avoir la complexité organisée. La complexité organisée, c'est lorsqu'un système est composé de composants qui interagissent de manière non linéaire. Encore le nouveau terme non linéaire apparaît. C'est-à-dire que même si les composants ne sont pas très nombreux, leur façon dont ils interagissent n'est pas triviale. Et tout ceci peut donner à des comportements qu'il est difficile d'extrapoler à partir de la connaissance des composants. Alors, ça permet déjà, selon Weaver, de traiter les différents types de complexité. Et en fait, l'objet du reste de mon exposé, et qui est l'objet de la plupart des recherches actuelles, c'est donc les recherches sur ce qu'on appelle la complexité organisée des systèmes en interaction non linéaire. Et pour ça, on va d'abord faire une césure en deux. Il y a deux façons pour un système d'être complexe. Soit c'est une complexité spatiale, c'est-à-dire que quand on veut le décrire, il est statique, on veut le décrire, eh bien, c'est extrêmement compliqué, il faut beaucoup de mots et la structure est difficile à décrire. Typiquement, un réseau de communication à l'échelle d'un pays, un réseau Internet, c'est un système complexe, spatialement. Un autre système complexe qui est très étudié actuellement, c'est la structure spatiale des protéines. Les protéines qui gouvernent le vivant sont des assemblages de centaines ou voire de milliers de molécules, mais qui sont assemblées de manière très particulière et surtout qui sont repliées de manière très spécifique pour retrouver leurs propriétés. Eh bien, la description des protéines est extraordinairement complexe, compliquée, difficile à caractériser. C'est typique d'un objet spatialement complexe. Et puis, il y a d'autres objets qui, dont on cherche à étudier le comportement dans le temps et dont la complexité résulte de la difficulté qu'on a à prédire leur comportement. Alors, typiquement, les premiers qui ont beaucoup été étudiés par les mathématiciens, c'est par exemple les bancs de poissons ou les vols d'oiseaux. Une dernière médaille Fields de M. Parisi a été décernée à ce scientifique-là, parce que notamment, il a fait des études mathématiques sur les systèmes de type organisé, comme les bancs de poissons, les vols d'oiseaux, etc. Le banc de poissons, le vol dans son ensemble, a un comportement très difficilement prédictible, alors qu'il est composé d'interactions très simples entre les oiseaux ou les poissons. Un trafic routier sur un réseau routier compliqué avec des échangeurs, etc., et ses bouchons fait partie des systèmes dynamiques qu'il est difficile parfois de prédire le comportement. Et puis, il y a tous les systèmes ensuite dont on va modéliser sur ordinateur, sous forme de ce qu'on appelle des automates. Et dans les ordinateurs, on en parlera, ce qu'on appelle notamment les automates cellulaires, qui sont des espèces de modèles réduits. Des automates dans la vie ordinaire, eh bien les automates cellulaires vont, même s'ils sont très simples, vont parfois montrer des comportements extraordinairement imprédictibles. Donc complexité spatiale, complexité dynamique, quelquefois certains systèmes ont la double complexité. Et la complexité a un impact, bien sûr, sur la vie quotidienne et sur la science, mais sur la vie quotidienne. Un bel exemple qui est connu, c'est celui de l'instabilité ou la complexité des équations de la météo, qui rendent très difficile la prédiction à long terme du temps qu'il va faire en un lieu donné. On a multiplié par des millions la puissance de calcul pour la météo et on a gagné 3 ou 4 jours de prédiction. Cela prouve bien que les équations de la météo, la météo elle-même, constituent un système complexe. Et on verra tout à l'heure que c'est en étudiant ces systèmes-là qu'on a découvert les premiers systèmes chaotiques. Je ferai une différence, une incidente entre la météo et le climat. Autant la météo est chaotique, difficilement à prévoir, complexe. Même, bien sûr, le climat lui-même est facteur de très nombreux composants, mais globalement, il semble qu'il ait un comportement beaucoup plus déterministe, beaucoup plus lent, beaucoup plus souple que les équations de la météo. Alors, on a compris avec Weaver et au début des années 50, du 1950, on a commencé à bien percevoir la notion de complexité et qu'on est environné de systèmes complexes qu'il va falloir peut-être analyser, qu'il va falloir traiter. Et pour ça, c'est l'ordinateur. Donc, l'ordinateur n'est qu'une représentation particulière de ce qu'on appelle les automates. J'en ai parlé tout à l'heure, de ces boîtes noires qui injectent en entrée les données de sortie pour faire évaluer l'état du système. Les automates sont finalement apparus en mathématiques dans les années 1930, puisque le fameux Gödel dont on a parlé, qui a mis ébranlé le château de cartes des mathématiques, eh bien pour cette démonstration, a utilisé des systèmes qui étaient des automates virtuels. Et puis, plus tard, avec la machine de Turing, eh bien Turing a systématisé ça et a modélisé des automates parfaitement conceptuels qu'il a essayé ensuite de réaliser, qui avait pour objet de simuler, de modéliser le comportement des systèmes logiques. Donc à nouveau, on voyait apparaître des automates comme étant outils pour prévoir les systèmes complexes. John von Neumann, qui était un génie qui n'est pas très connu, mais qui a beaucoup travaillé dans tous les domaines de la physique et des mathématiques et a laissé des traces extrêmement précises, et il a été innovateur dans beaucoup de domaines, eh bien, von Neumann avait pressenti ça. D'abord, il a pressenti les automates, puisque c'est le premier qui a conceptualisé l'architecture des ordinateurs qui allaient être utilisés et qui sont toujours utilisés depuis son époque. Ensuite, il a été un des promoteurs des premiers ordinateurs réels basés sur l'électronique qu'il a utilisé pour compter utiliser pour étudier les trajectoires des neutrons dans la matière fissible, qui était un des éléments clés du projet Manhattan de construction de la bombe A. Donc les automates, à partir des années après la guerre, allaient devenir les outils à la fois de base, d'abord parce qu'on pensait que les programmes d'ordinateur étaient nécessaires pour résoudre les questions, les problèmes, mais surtout parce qu'on va découvrir que les automates eux-mêmes, quand on les étudie pour eux-mêmes, en dehors du contexte de physique, ils permettaient de retrouver les grandes manifestations des comportements des systèmes de l'univers. Alors, jusqu'ici, jusque j'allais dire là, on n'avait pas trop de problèmes. Ceux qui ont fait dans leurs études du calcul des différences finies ou des calculs d'éléments finis savent qu'on peut discrétiser un problème continu. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont établi les automates correspondants aux équations de la physique, aux équations de Newton, etc., pour les résoudre plus facilement. Et ça marchait très bien. C'était stable, une petite variation à l'entrée faisait pas beaucoup de variations à la sortie. C'est ce qu'on appelle des automates déterministes. Et puis, progressivement, eh bien, on s'est aperçu, et ce sera le cas de tout à l'heure de l'automate de Lorentz, que certaines équations, quand on faisait l'automate pour les résoudre, eh bien, ça se passait pas du tout comme on attendait, et que dans certains régimes, eh bien, quelquefois, de petites variations sur les données d'entrée aboutissaient à des variations extrêmes en sortie qui rendaient absolument le système imprédictible. Et on a découvert que les caractéristiques de ces automates, c'est que la boîte noire est non linéaire, c'est-à-dire qu'au lieu de manipuler les données telles qu'elles sont, hein, x, x1, x2, x3, elle fait intervenir des carrés de ces données, ou des sinus de ces données, ou des fonctions un peu compliquées de ces données qui sont plus linéaires. Et on s'est aperçu que dès qu'un automate est non linéaire, même le plus simple possible, eh bien, il peut montrer des zones, des domaines dans lesquels il va avoir un comportement complètement déterministe et d'autres domaines pour lesquels il va avoir un comportement qu'on qualifiera de chaotique. Donc, progressivement, en mettant ça en place, on s'est aperçu que, d'une part, les équations de la physique étaient peut-être, dans certains cas, non prédictibles, chaotiques, et puis ensuite, on s'est rendu compte que les systèmes d'automates, même les plus simples, pouvaient montrer le même comportement. Alors, on a commencé, et John von Neumann a beaucoup travaillé sur les systèmes d'automates conceptuels, et pour leurs propriétés, et il s'est inspiré, j'allais dire, des systèmes biologiques, des systèmes biomimétiques, j'allais dire, en disant, mais finalement, beaucoup dans le vivant, il y a beaucoup de systèmes, d'organismes qui sont finalement que des réseaux de vivants extrêmement simples et qui ont globalement un comportement très complexe. Donc, pourquoi pas utiliser des réseaux artificiels essayant de simuler le comportement des systèmes biologiques, ce qu'on appelle les systèmes biomimétiques. Alors, quelles sont les caractéristiques que les systèmes biomimétiques doivent copier sur le vivant? Eh bien, elles sont de trois ordres, et elles sont de trois ordres de plus en plus compliqués. Le premier ordre, c'est un système vivant, il s'adapte. Alors ça, on sait qu'un arbre, suivant qu'il est en zone humide, en zone sèche, s'il a des voisins ou pas de voisins, n'aura pas la même façon de croître. Eh bien, là aussi, on a élaboré des modèles déterministes, qu'on appelle les modèles en essaim ou les modèles génétiques, qui sont des automates déterministes qui mettent en jeu de nombreux composants et qui permettent de retrouver ces propriétés d'adaptation. Ensuite, le vivant a une propriété beaucoup plus complexe, c'est la notion de la capacité de se répliquer et de se réparer. Et ça, que je crois que von Neumann a inventé ou popularisé le mot d'autopoïèse, autopoïèse, cette capacité à se répliquer ou à se réparer, il a, sur le papier, formellement, de manière abstraite, démontré les propriétés que doivent avoir les automates pour pouvoir être capables de se reproduire et être capables d'autopoïèse. Et il faut savoir qu'il a fallu 20 ou 30 ans et des ordinateurs extraordinairement puissants pour mettre en œuvre ces résultats théoriques de von Neumann et d'établir sur un ordinateur un automate qui avait cette capacité de se réparer et de se répliquer. Et puis, on le verra tout à l'heure, il y a des automates plus simples, comme le jeu de la vie, et qui sont des automates qui ont cette capacité de se répliquer et de se régénérer. Et puis, enfin, dernière propriété, jusqu'ici, ce ne sont pas ces automates-là sont extrêmement puissants, on peut les utiliser, mais il leur manque une capacité extrêmement importante qui est ce qu'on appelle la capacité d'apprentissage. En effet, s'il y a un réseau biologique qui fonctionne et qui est extraordinairement efficace, c'est bien le réseau de nos neurones. Et Dieu sait si isolément, chacun de nos neurones n'est pas très puissant, c'est vraiment pas un processeur fiable, c'est pas un processeur rapide, et malgré tout, notre cerveau a une très grande capacité à résoudre des problèmes. Derrière tout ça, il y a cette capacité d'apprentissage. Cela veut dire que les réseaux d'automates ont la capacité de s'enrichir et de s'inspirer des résultats des travaux qu'ils ont faits auparavant. C'est ce qui va donner l'intelligence artificielle dont je parlerai à la fin de cet exposé. Donc, essayons d'implémenter dans les réseaux d'automates artificiels, sur papier puis sur ordinateur, ces propriétés. Donc, John von Neumann fait le travail théorique. Il s'adjoint Ulam, un autre mathématicien, pour commencer à faire sur papier d'abord puis sur ordinateur des premiers automates couplés. Très simple, c'est-à-dire une feuille de papier avec des cases noires, des cases blanches et dont l'occupation évolue en fonction de leur environnement. Et dans les années 70, John Conway, un mathématicien écossais, a établi ce qu'on appelle le jeu de la vie, qui est sur ordinateur, qui était un des premiers utilisés. C'est-à-dire un système sur un papier quadrillé plan à deux dimensions, de cases noires, de cases blanches, qui évoluaient en fonction de leur taux, de leur environnement. C'est-à-dire, par exemple, une case occupée, entourée de cases inoccupées, mourait d'isolement, une case occupée, trop entourée de voisins, mourait d'étouffement, et puis il y avait d'autres conditions pour que les cases puissent se créer, se remplir. Eh bien, en appliquant ces règles-là, John Conway a montré que des colonies, des simulations sur ordinateur de ces automates simples permettaient de reproduire, d'une part, la complexité des évolutions des colonies, par exemple, de bactéries, ou des systèmes vivants, ou des feux de forêt, enfin, tout système qui existe à notre échelle et qui a un comportement pas toujours prédictible. Et donc, plus tard, on a démontré que le fameux automate du jeu de la vie de Conway a des propriétés extrêmement puissantes qui les rapprochent des outils de la machine de Turing et de Gödel qui avaient été établis sur le papier plus tôt. Puis ensuite, d'autres, comme Wolfram, ont fait des études systématiques de tous les automates les plus simples, qu'on appelle les automates cellulaires. Tous ces travaux-là ont démontré quoi? Ils ont démontré que sans aller chercher des automates d'une très grande complication, eh bien, même les automates les plus simples, du moment qu'ils avaient un traitement de manière non linéaire, pouvaient reproduire la complexité des systèmes, et y compris les domaines dans lesquels ils avaient un comportement chaotique. Grande découverte, La complexité ne naît pas du compliqué, elle naît du simple. Et donc tout ceci étant lié à ces automates dont le traitement de l'information est non linéaire. Mais alors, il nous manque une des propriétés essentielles qui est la notion d'apprentissage, d'auto-organisation des réseaux neuronaux, qu'on retrouve dans les réseaux neuronaux. Eh bien, c'est un pas en avant dans la théorie des automates qui va résulter du fait que lorsque on va réinjecter les données de sortie dans l'entrée, eh bien, l'algorithme de traitement des données va dépendre du résultat qui a déjà été trouvé. C'est-à-dire qu'on aura une faculté d'apprentissage, hein, comme un enfant apprend à marcher. Eh bien, il est un peu câblé pour avancer un pas et un autre. Et quand il tombe, eh bien, il réinjecte cette information en entrée et il va modifier sa façon de faire. Eh bien, les automates dont on va parler, qui sont les automates qui sont à la base de l'intelligence artificielle, implémentent cette propriété, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'apprendre et de s'auto-organiser en fonction des résultats qu'ils ont obtenus. Et c'est une propriété qu'on retrouve dans les réseaux neuronaux biologiques et dans les réseaux neuronaux artificiels. Alors comment tout ceci est arrivé? Ceci est arrivé par la conjonction de trois grandes démarches scientifiques, de trois grandes découvertes. D'une part, la démarche d'un physiologiste, qui est Hebb, qui a étudié les systèmes vivants, les systèmes, la façon dont le cerveau ou les cerveaux des animaux apprennent. Et il a inventé le concept de plasticité synaptique, c'est-à-dire que les données d'entrée dans les neurones sont modulées en fonction des résultats des apprentissages précédents. Ça, c'était vraiment sur de la biologie. Plus tard, dans les années 43, McCulloch et Pitts ont formalisé sur papier un neurone dit formel qui capte l'essentiel de toutes les propriétés des neurones biologiques en les simplifiant de manière extrême, sachant que c'est une petite boîte noire de traitement, un automate non linéaire qui a une seule sortie et qui a toutes les entrées de ses collègues ou qui a plusieurs entrées. Et donc, éventuellement, la donnée de sortie est rebouclée sur d'autres neurones qui seraient en réseau. Alors, tout ceci n'était que sur papier. Et puis, finalement, dans les années 50, lorsque les premiers ordinateurs individuels ont commencé à fonctionner, Clark a pu faire sur un ordinateur un simulateur, donc sur ordinateur, de l'automate auto-apprentissant de McCulloch et Pitts, ça a été le perceptron qui a été beaucoup étudié par Rosenblatt dans les années 57. Donc le perceptron, c'est l'implémentation sur un ordinateur d'un automate artificiel qui simule les réseaux neuronaux. Et ce perceptron a été extrêmement efficace pour classer les données. Par exemple, très vite, on s'est rendu compte qu'il pouvait reconnaître les lettres. Quand on lui avait appris un ensemble de lettres comme le A, B, C, D, ben, quand on lui présentait des lettres, même un petit peu déformées, même la tête en bas, il était capable de les retrouver. Donc le perceptron, extrêmement puissant. Et on a commencé éventuellement à vouloir les associer. Et il y a eu une époque extrêmement productive où on a travaillé le concept du perceptron, on l'a élargi. Il y a eu par exemple les réseaux de Hopfield, qui étaient des réseaux de perceptrons, en parenthèse, qui étaient entièrement couplés, etc. Donc des réseaux, on appellerait ça des réseaux monocouches, puisque tous ces neurones étaient sur un même plan. Et puis, il y a un grand pompe de ces études-là qui un jour a complètement refroidi l'atmosphère puisqu'il a publié un ouvrage qui démontrait que bien sûr tous ces réseaux de neurones tels qu'ils étaient actuellement étaient très efficaces pour classer des données, etc. Mais il y a des problèmes d'une très grande simplicité qu'ils étaient incapables de résoudre, comme par exemple certaines opérations logiques, comme on appelle par exemple le XOR ou le XAND, qui sont des opérations logiques de base dans les ordinateurs et que les réseaux de neurones de l'époque ne pouvaient pas reproduire. Donc, une douche froide. Des équipes se sont parties vers d'autres sujets. Il y a eu vraiment un hiver des réseaux neuronaux artificiels pendant quelques années. Et puis, vers les années 86-90, le printemps est revenu parce qu'il y a eu un travail d'un japonais, d'un physiologiste japonais, qui a étudié de manière extrêmement détaillée le système visuel humain. Et il s'est rendu compte, il a vraiment formellement établi que le traitement de l'information entre la rétine, entre l'information prise sur les rétines de l'œil et le système visuel, était loin d'être un simple réseau de neurones qui discutaient entre eux. Mais il y avait énormément de couches. L'information passait par des couches de neurones, chaque couche ayant des propriétés particulières, certaines étant plutôt sensibles à des aspects globaux, d'autres à des aspects plus particuliers, des contrastes, etc. Et donc le résultat de la vision n'était que le traitement de l'information par des différentes couches de neurones, chacune ayant des rôles différenciés. C'est d'ailleurs, on voit la trace de ces différentes couches dans toutes les illusions d'optique, qui démontrent bien que l'illusion optique étant par définition le résultat d'un traitement un petit peu déficient de nos couches de neurones du signal initial. Donc, renouveau, et alors, lorsqu'on a pu démontrer un théorème extrêmement important, puisqu'on doit faire des réseaux de neurones qui s'adaptent, qui apprennent, il faut que l'ensemble des couches puissent apprendre. Or, seule la dernière couche connaît le résultat, je vais dire connaît entre parenthèses. Donc, il a fallu beaucoup de travail pour implémenter ce qu'on appelle des méthodes de rétropropagation, qui fait que l'apprentissage ne concerne pas que la dernière couche de neurones, mais que l'ensemble des couches aussi apprend et s'adapte au contexte. Ça donne ce qu'on appelle les réseaux convolutifs ou néocognitrons, qui ont été très développés dans les années 90 et maintenant 2000, qui sont des réseaux extrêmement puissants. Maintenant, on traite des systèmes avec peut-être 20 ou 30, et peut-être certainement beaucoup plus, couches pour traiter des informations complexes. Donc, ces couches de réseaux, avec des réseaux dits cachés, puisqu'ils sont coincés entre les neurones de sortie et les données d'entrée, eh bien, ont été la base de découvertes extraordinaires, puisqu'on a pu démontrer qu'ils étaient capables de résoudre des problèmes d'une grande complexité. Et c'est ainsi que, grâce par ces algorithmes d'apprentissage, les réseaux neuronaux ont appris à jouer aux échecs et à battre les humains. Ils ont appris à jouer au Go et ont appris à battre les humains, sachant qu'en tout état de cause, comme les couches de neurones intérieures, on n'a pas accès direct, il a ses propres règles dont quelquefois qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas formuler. Ce que l'on sait, c'est qu'au bilan, il est capable de challenger, comme on dit maintenant, les cerveaux humains dans des opérations comme les jeux Go et jeux échecs, dans la conduite automobile, c'est exactement l'apprentissage aussi qui permet d'avoir ces voitures autopilotées. Et puis, désormais, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est le résultat de ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire que pour développer l'apprentissage, il faut surtout développer les données d'entrée. Plus on soumet ces réseaux neuronaux à des expériences, à des apprentissages complexes, plus ils emmagasinent l'information et plus ils sont capables de traiter des problèmes compliqués. Eh bien, désormais, vous avez ChatGPT, qui était un dernier avatar de ces systèmes de deep learning, qui a accumulé des données énormes dans l'ensemble des bases de données qui sont sur Internet, et qui ensuite en a extrait les données pertinentes et est capable de formuler en langage naturel des réponses. Donc le deep learning est la combinaison de couches de neurones extrêmement développées avec des processeurs dédiés extrêmement puissants et d'immenses bases de données qui permettent d'avoir des systèmes ayant une grande base d'apprentissage. Le résultat, nous le voyons. Alors, à l'avenir, bien sûr, se posent toutes les questions quant à quelles sont les limites de ces processus. Et aussi, est-ce que derrière cette multiplication, derrière cette complexité d'organisation, va pas apparaître ce qu'on appelle un phénomène émergent, et je conclurai peut-être là-dessus, sur les systèmes complexes. Eh bien, un système complexe, en général, a un comportement collectif qui est difficilement réductible au comportement individuel de ses composants. C'est ce qu'on appelle l'émergence. Le comportement des saints est un comportement émergent de l'ensemble des interactions entre les abeilles. Et alors, est-ce que l'intelligence, j'allais dire factuelle, de ChatGPT apparaît comme étant le résultat émergent de ces bases de données et des interactions que l'on construit dans ces réseaux de neurones? Et est-ce qu'à partir d'un certain niveau de compliqué, de complexité, va-t-on par voir apparaître d'autres phénomènes émergents, un petit peu comme pour bon nombre de biologistes et de physiciens, la conscience apparaît comme étant un phénomène émergent des systèmes neuronaux lorsqu'ils ont atteint un certain niveau de complexité. Donc voilà le demain des sciences du complexe tel qu'il nous apparaît aujourd'hui avec ses espoirs et ses limitations. Donc, pour résumer, on est parti du 17e, 18e, 19e siècle d'un rêve devant la puissance des sciences physiques, des lois mathématiques et de la capacité de résoudre les problèmes que peut-être à terme on pourrait être capable de modéliser l'univers dans sa complexité de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On s'est rendu compte que ceci posait des problèmes d'une complexité inouïe et que peut-être si on mettait des machines automatiques pour traiter ce type de problème, eh bien, on arriverait peut-être à relever les problèmes techniques, d'où la notion de réseau d'automates, que sont les ordinateurs, puis les réseaux d'automates intelligents, que sont les réseaux neuronaux, qui ont certainement considérablement étendu la capacité de l'humanité à analyser et prédire l'évolution de l'univers, sachant que reste toujours derrière la limitation ultime de la mécanique quantique qui est incertaine et des systèmes chaotiques. Tout connu qu'il soit, tout précisément analysé qu'il soit, ont un comportement imprédictible. On a appris aussi pendant ces siècles-là que l'intelligence est quelque chose qui se développe surtout en réseau. Au début des ordinateurs, dans les années 50, on cherchait à avoir des processeurs individuels de plus en plus rapides, ce qu'on a réussi. Mais maintenant, avec les réseaux neuronaux, on se rend compte que l'intelligence n'est pas dans le processeur, que l'intelligence est dans la connexion du réseau. Et je terminerai en raison de tout ceci, le démon de la place et le rêve de la place n'est qu'un rêve, que tout n'est pas déterminé, que tout n'est pas écrit, et qu'il y a une grande partie de l'évolution de l'univers qui nous est encore ouvert.